Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est l'invisible. Nous irons de l'invisibilité comme grille possible de lecture sociale aujourd'hui aux infrastructures dissimulées du web, ce sera mercredi, en passant par le rapport aux morts et aux autres puissances impalpables, ce sera jeudi, et l'infiniment petit de la nature. Demain, le cinéma, c'est vendredi, évidemment. Ouvrez les yeux autant que l'oreille interne, au moins jusqu'à la fin de la semaine.
On ne peut plus parler de la société simplement avec des catégories trop épaisses qui roule sur la surface de la réalité. Et que s'il y a une crise de la représentation dans ce pays, c'est aussi, pas simplement parce que les politiciens font mal leur travail et qu'ils sont loin des réalités, c'est aussi parce que la société est devenue plus illisible. C'est aussi parce qu'il y a toute une partie de la réalité qui n'apparaît pas.
Dieu, la poésie, le charme, l'élégance, selon Cocteau, ou encore l'infiniment loin, les premières associations au terme d'invisible et d'invisibilité furent tellement vertigineuses que je me suis retrouvée à l'ancienne à feuilleter le bon vieux Larousse. Les exemples, le dernier en particulier, n'a pas manqué de me faire sourire. Pour définir l'invisible, on y lit. 1. Qui n'est pas perceptible par la vue, une étoile invisible à l'œil nu. 2. Qui agit dans l'ombre, ennemi, menace, invisible. Et enfin 3. Qu'on ne peut pas voir, rencontrer, le patron est invisible, il est en conférence. Ou comment une définition sommaire d'un terme vertigineux, 1. Te fait rejoindre le sol, 2. Est révélateur d'un certain air du temps, 3. Lance tout à fait convenablement une semaine thématique. Vous écoutez France Culture, il est 14h passé de 2 minutes, bienvenue dans les nouvelles vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont le fruit d'expériences et de découvertes marquantes. Ce sont ces moments que nous demandons à une personne par semaine de nous raconter. Cette semaine, c'est le peintre Jean-Pierre Plundre qui se prête au jeu et il commence par évoquer sa découverte de la radio, d'abord à travers les feuilletons que sa mère écoutait en repassant, puis à travers France Culture qui lui ouvre les portes de la littérature et le mène un beau jour de pluie à écouter Pérec lire le début de Je me souviens, le début de Je me souviens, avant même sa première publication. Récit émerveillé et ému vers 14h50. Premier moment d'une semaine consacrée à l'invisible et à l'invisibilité, et premier moment d'un paradoxe peut-être. Comment allons-nous parler 5 fois, 1 heure de choses, de processus ou d'êtres que supposément nous ne voyons pas? C'est que sans le voir, nous connaissons l'existence de l'invisible, au moins en faisons-nous l'hypothèse. Pour commencer, nous réfléchissons au concept d'invisibilité sociale, à la grille de lecture qu'il offre aux analyses sociologique, économique, politique. Nous réfléchissons à son usage et à sa définition aussi, tant il pénètre le vocabulaire de la critique sociale plutôt très à gauche, autant que l'argumentaire de mobilisation plutôt très à droite. Quel est le rôle de la visibilité, de l'invisibilité, notamment dans la conquête des droits et de la représentation politique au sein de la démocratie? La reconnaissance passe-t-elle par la visibilité? Plus qu'en catégorie, ne s'agit-il pas de penser visibilité et invisibilité comme différents moments du parcours des groupes et des individus? Voici des questions que nous vous posons cet après-midi. Mélène Servera et Renaud Ourcade, vous êtes respectivement chercheurs en socio-économie et chercheurs en sciences politiques. Vous avez travaillé ensemble, entre autres pour un rapport sur la construction institutionnelle de l'invisibilité sociale, on en parlera. C'est un rapport commandé par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et vous affectionnez, c'est pas facile à dire tout ça, le travail collectif, notamment à travers l'APEX, Association pour les expérimentations sociales, et on en reparlera aussi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ce dont je suis parti, c'est de l'idée de s'intéresser aux motivations de la critique pratique. Et ces motivations, je les ai trouvées davantage dans les sentiments d'injustice et dans les sentiments de n'être pas respecté ou de n'être pas reconnu. C'était le point de départ. L'idée qu'on ne doit pas penser à la contestation ou à la critique sociale en termes de motivation utilitaire, maximisation de sa situation, de ses ressources financières, mais en termes de reconnaissance et de manque de respect.
Penser la critique pratique en termes de reconnaissance et de manque de respect, c'est la voix de Axel Honneth au micro de Sylvain Bourmeau. C'était dans une émission La Suite dans les idées en janvier 2010 sur France Culture. On évoque cette figure, peut-être pour parler des fondements et de la manière dont se pense dans un premier temps l'invisibilité sociale. Quel est le rôle de Honneth en l'occurrence ?
Ben c'est vrai qu'en sciences sociales, il est intéressant de revenir à la figure de ce penseur qui est Axel Honneth, puisque Honneth a travaillé donc sur la lutte contre pour la reconnaissance, la lutte pour la reconnaissance et la société du mépris plus récemment. Et ça a été repris par un ensemble de sociologues, finalement, à travers le concept de la reconnaissance et les attentes de reconnaissance qui sont liées. C'est-à-dire que dans la vie sociale, les individus ou les groupes ont différentes attentes de reconnaissance et que celles-ci, soient satisfaites ou non, impliquent différentes situations de visibilité ou d'invisibilité. Et c'est pour ça qu'une école en sociologie s'est attachée à la philosophie de la reconnaissance et à la philosophie sociale d'Honneth, deuxième école de Francfort, je passe, pour pouvoir aborder les différentes situations de visibilité ou d'invisibilité.
Aujourd'hui, c'est un concept qui est majoritairement utilisé en sociologie ? Pas forcément.
Pas nécessairement, c'est plutôt un concept de philosophie morale, de philosophie éthique, mais qui est repris par les sociologues pour ses vertus de compréhension, ses vertus heuristiques, parce qu'il permet de poser des bonnes questions, il permet de faire marche arrière par rapport aux approches utilitaristes des luttes sociales, il permet de penser par exemple des luttes qui ne concernent pas l'égalité économique au premier degré, mais la reconnaissance d'une identité, identité de genre, identité raciale.
Ce qu'on entendait dans la voix de Honneth, c'est-à-dire une lutte qui ne s'acoquine pas nécessairement de maximiser sa position, mais plutôt d'aller vers de la reconnaissance et de lutter contre du mépris ou de la non-reconnaissance.
La maximisation de son statut social, qui n'est pas nécessairement égale à la maximisation d'un profit utilitaire direct.
Et ça, c'est quelque chose qui est convoqué pour penser des situations nouvelles, ou alors c'est juste simplement de nouvelles pensées. Comment expliquer qu'aujourd'hui on s'empare plus volontiers de ce concept d'invisibilité sociale ?
Je pense que la reconnaissance est utile pour pouvoir penser l'invisibilité sociale, mais que finalement l'invisibilité sociale, elle existe depuis plusieurs décennies et finalement, dans l'histoire du XXe siècle, elle a souvent et à de nombreuses reprises existé. Sauf que l'utilisation de ce concept-là, je vais expliquer un petit peu pourquoi, permet de penser l'invisible, vu que c'est le thème de votre semaine, et de penser sa construction également sociale. Pourquoi ? Puisque on peut dire, du coup, pour Honneth en tout cas, qu'il y a différentes attentes de reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure, qui sont ressenties ou partagées par des individus, que ces attentes de reconnaissance sont au nombre au moins de trois, Honneth en distingue quelques autres, mais au moins de trois, qui sont une attente de reconnaissance en termes d'amour ou d'affectivité, une attente de reconnaissance en termes de droit. Mais on entend le droit dans sa conception noble, à savoir le fait de vivre en commun dans une société et d'avoir les mêmes droits dans l'utopie ou la pensée de l'idéal des droits de l'homme et du citoyen. Et cette troisième attente, finalement, c'est celle que Honneth appelle celle de la solidarité. Mais on va entendre cette solidarité davantage comme quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique collective ou individuelle, qui va appeler une valorisation sociale ou une estime sociale. Et donc, cette solidarité, cette estime sociale, ça va être la question qui est de savoir, est-ce que ma pratique, est-ce que mon emploi, est-ce que le fait d'avoir telle ou telle action dans la vie sociale, d'être en groupe ou non, est reconnu socialement et institutionnellement. Et ces trois attentes de reconnaissance-là sont notamment par Olivier Voirol, un sociologue sur lequel nous on s'appuie dans notre étude, est mise en miroir avec des situations d'invisibilité où ces attentes de reconnaissance ne sont pas satisfaites. Et ces situations d'invisibilité sont donc au nombre de trois, l'invisibilité affective, l'invisibilité dite pratique et l'invisibilité juridique.
Et qui répondent et qui donc s'articulent avec ces attentes de reconnaissance. Voilà. Quand vous dites que ça permet de penser l'invisible, alors on va évidemment passer 5 heures et 5 fois des émissions d'une heure à essayer de définir ce que c'est ou d'avancer sur ce terrain-là, mais du coup pour vous ce serait quoi alors cet invisible dont il est question ?
Alors si on part du rapport pour le compte de l'ONPES que nous avons réalisé et qui sert un peu de prétexte à notre intervention, c'est l'invisibilité des catégories sociales qui ne se retrouvent pas prises en charge dans le cadre de dispositifs d'accompagnement. On a une société qui fabrique de la précarité et de l'exclusion. On a développé un État-providence depuis plusieurs décennies qui vise à répondre à ces problèmes. Mais on se rend compte que les mailles du filet de l'État-providence laissent passer des situations qu'on pourra qualifier d'invisibles parce qu'elles ne sont pas dans les radars des politiques sociales, des observatoires, des statistiques aussi, qui permettent de rendre compte de ce qui se passe. Il y a une invisibilité institutionnelle de ce point de vue-là. C'était le point de départ de la réflexion de l'Observatoire de la pauvreté. C'est qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans nos politiques de lutte contre l'exclusion ? Et quand on tire le fil de l'invisibilité, on se rend compte que l'invisibilité institutionnelle ne peut pas être détachée de bien d'autres formes d'invisibilité. C'est en fait une sorte de kaléidoscope, la visibilité. Il y a un jeu de miroir, de regard. Il n'y a pas une visibilité subjective, intrinsèque ou essentielle. En fait, tout est dans la relation dialectique de regard. Et l'invisibilité institutionnelle, par exemple, elle est très liée à l'invisibilité médiatique. Qu'est-ce qui fait qu'une cause ou qu'un problème est jugé préoccupant ? Appelle l'attention publique. Il n'y a pas non plus de déterminant objectif du fait d'attirer l'attention d'un décideur politique, d'un homme politique ou d'une administration. Donc il faut que la situation soit construite, travaillée, produite par des médiateurs, par des porte-paroles qui peuvent faire sortir les faits problématiques de leur invisibilité. Donc c'est une notion qui est très importante d'un point de vue de sciences politiques et du point de vue du fonctionnement de nos démocraties. C'est comment est-ce qu'on traite les problèmes au moment où ils arrivent dans l'espace public. Et qu'est-ce qu'on fait des problèmes qui n'arrivent pas dans l'espace public ?
Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui s'articule avec l'idée de l'existence ? Vous disiez tout à l'heure, c'est une idée de reconnaissance, d'attente. Est-ce que être invisible, c'est avoir le sentiment de ne pas exister ? Dans ce cas, au regard de quoi ou de qui ?
On pourrait le penser de cette manière-là, en effet. Et là, je déploie un petit peu le fil de ma pensée en direct en me disant que, justement, être invisible à un moment donné, c'est ne plus se sentir exister vis-à-vis de l'altérité, vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que la reconnaissance, c'est un fil conducteur intéressant, puisque quand je vous parle de l'amour ou de l'attente en termes de relations affectives, que ce soit celle de l'amicalité, de la famille ou des proches ou du voisinage, et moi j'ai de nombreux exemples en tête, notamment sur le VIH-SIDA ou des situations de vulnérabilité sociale ou de précarité grandissante, de personnes qui finalement s'invisibilisent puisqu'elles sont dans un isolement social ou une rupture de lien social assez assez importante qui fait qu'ils se coupent d'une certaine manière des relations sociales coutumières, quotidiennes. Donc l'invisibilité sociale, dans sa part affective, elle est à un moment donné une invisibilité qui se vit aussi au quotidien, si on pense à votre question sur l'existence. Donc ça peut être à un moment donné des phénomènes de repli, et c'est pour cela qu'on parle de précarité ou de grande pauvreté. Hein, dans le travail qu'on a mené pour l'ONPES, c'était d'entre entrée l'exclusion. L'exclusion ou le problème de santé ou le vieillissement va entraîner un certain moment une rupture ou un repli ou un passage dans la situation d'invisibilité qui va amener un isolement et qui va amener une absence de reconnaissance, une absence d'attention. Ce qui fait que cette absence d'attention, finalement, il me semble, hein, Renaud a parlé de la construction de l'État-providence depuis 1945, il me semble que l'État social, si on y croit encore un petit peu aujourd'hui, c'est bien d'aller prévenir ou soigner ces situations de rupture, d'isolement, qui sont rencontrées dans des parcours de vie qui peuvent être brisés, mais voilà. Ouais.
Les pauvres sont vus manifestement, tout le monde les voit, tout le monde les repère, tout le monde les sent. Et peut-être que c'est le surplus, le surcroît, l'inquiétude de l'envahissement plutôt qui les rend invisibles. C'est-à-dire à la fois on les voit et en même temps on les efface simultanément qu'on les voit. Il y a une image qui me revient à l'esprit sur AZF, les premiers plans qu'on nous a donnés du site AZF. Il est assez remarquable de voir que pendant une semaine ou 15 jours, dans le plan, il y a quelque chose qui va être effacé et qui va revenir après. C'est un tout petit hôpital psychiatrique qui est, je crois, à 150 mètres, 200 mètres du site. Donc, même les journalistes, en fabriquant la carte, ou ce qu'on leur a donné, on a pris soin de gommer cette bordure, 150 fous à côté des AZF, ça n'a aucun rapport, et peu importe. Et donc on efface, on gomme la carte, et puis trois semaines après quand même on rétablit, on dit oui, il y avait un petit hôpital psychiatrique là, qui était quand même en partie pas mal détruit, et puis ces gens-là, on les a redistribués à droite à gauche, personne ne sait trop bien. Donc on voit bien, et en même temps on voit rien.
Et en même temps, on voit rien. C'est vraiment ce paradoxe du surcroît de visibilité, hein, duquel parle Jean-François Lahaye ici dans cet archive de mai 2004. Les pauvres, on les voit tellement, on les sent qu'on les gomme pour ne plus les voir. Il est ici question d'un chantier où a été détruit un hôpital psychiatrique et qui avait carrément été évacué ou gommé de la carte, y compris de la carte du discours. Quand vous parlez, Renaud Ourcade ou Mélène Cervera, de cette invisibilité, elle est forcément liée avec de la vulnérabilité. C'est forcément quelque chose qui est fragile, négatif. Il n'y a jamais d'invisibilité positive.
Et Renaud, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant aussi dans notre réflexion. C'est l'idée que l'invisibilité sociale est concentrée sur les questions d'exclusion et de précarité depuis plusieurs décennies. Mais que si on observe le contemporain avec un regard un peu décalé, on constate qu'à l'heure d'une société de surveillance, de lois numériques qui encouragent et entretiennent la mise en visibilité des actions, des êtres et des identités, d'un point de vue étatique quelque part, l'invisibilité peut être une condition de l'émancipation, peut être même aussi une condition de la subversion du cadre étatique. C'est pas anodin qu'un des groupes subversifs qui a fait parler de lui depuis 5 ans se nomme le Comité Invisible. Il y a pas un autre exemple qui me vient en tête, c'est les masques des Anonymous sur Internet. Donc il y a toute une filière de lutte sociale, politique, qui passe par le vecteur de l'invisibilité pour prendre à contre-pied la société de surveillance, si on suit Foucault.
Mais là, c'est un levier d'émancipation et on pense même, en vous écoutant, à ce que peut écrire Geoffroy de La Gannerie quand il parle à des possibilités de soustraction, en fait, de l'espace visible à des manières, via des figures de la subversion politique ou de hacker ou d'action sur Internet, de se soustraire à la visibilité voulue par l'État. Mais peut-être en amont de tout cela, se redire que ce qui est invisible, c'est aussi la majorité. Quand on entend la voix de Jean-François Lahaye qui dit « les pauvres sont si visibles », peut-être ils sont visibles par rapport à, je sais pas, une majorité qui va être bien habillée, aura bien mangé, pourra circuler quand eux ne le pourront pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que l'invisible n'est pas aussi le majoritaire qui, entre guillemets, va bien et est la norme ?
Moi, je pense.
Mélène Cervera.
Il me semble qu'on peut pas forcément le prendre comme ça, parce qu'on peut plutôt parler de visibilité ou d'invisibilité paradoxale. En effet, la vulnérabilité, la pauvreté, le sans-abrisme, il y a des études qui sont faites en ce moment sur le vieillissement des femmes à la rue, par exemple, qui s'invisibilisent totalement, même avec leur père plus jeune ou avec leur père masculin, homme. Il y a un paradoxe dans la mesure où cette invisibilité est visible. Et c'est ce qu'on avait pu mettre en avant aussi dans le rapport ONPES avec l'APEX, c'est qu'il y a un visible perçu, et un invisible perçu et un invisible non perçu. Et que cet invisible perçu dans l'espace public ne correspond pas forcément à une reconnaissance institutionnelle des droits. Donc on peut être tout à fait visible. Je dirais morphologiquement, notre corps est présent. D'ailleurs, le corps des sans-abri est celui qui est davantage présent dans la nuit parisienne ou dans la nuit de l'Île-de-France ou des grosses agglomérations. On peut être donc visible par son corps, mais complètement invisible dans les dispositifs d'action publique. Et c'est pour cela que l'invisibilité sociale, si je suis le fil de ma pensée, c'est aussi de se dire l'invisibilité sociale, c'est ceux qui ne vont pas demander. J'ai en tête finalement un rapport de l'IGAS de 2006 qui s'appelait « Ceux qui ne demandent rien ». Donc ces personnes qui vont ne rien demander en termes d'aide sociale, par exemple, qui viennent de l'État-providence, des politiques sociales, de la redistribution, du couple progrès, redistribution, croissance économique, ces invisibles-là, finalement, ne sont pas reconnus juridiquement puisqu'ils ne demandent pas. Ce qui donne un lien très clair entre la question de l'invisibilité sociale et du non-recours ou de la non-demande de droit, alors que finalement, comme on a pu le faire également sur la question des femmes après leur congé parental, on crée des dispositifs pour aider des personnes par rapport à un besoin qu'elles vont rencontrer dans leur vie sociale, un enfant, deux enfants, et le changement dans sa vie quotidienne que cela crée, que cela provoque. Et ces dispositifs ne sont pas saisis par des populations qui pourtant pourraient en bénéficier. Et ces dispositifs sont construits pour ces populations. Donc, d'un point de vue strictement institutionnel, l'invisibilité sociale, elle est prise dans ces catégories-là de populations précaires et vulnérables qui ne vont pas demander de l'aide.
Alors, dans ce cas précis, quelles sont les causes de cette invisibilité sociale? Puisque vous dites qu'il y a des dispositifs qui sont prévus, par exemple, pour répondre aux femmes qui sortent d'un congé parental et qui, pour plein de raisons, notamment des manières de rester peut-être contraintes à l'espace domestique, se rendent invisibles en ne réclamant pas, en ne faisant pas recours. Mais là, ce serait quoi? Une propre création, une auto-création de l'invisibilité sociale?
Oui, je pense que l'invisibilité sociale peut créer à un moment donné une visibilisation alternative. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Il va falloir essayer pourtant.
L'invisibilité sociale peut être pourvoyeuse de visibilité alternative. Je m'explique. Si des personnes ne demandent pas de l'aide à des dispositifs pourtant créés vers elles, c'est aussi parce qu'elles développent tout un réseau d'entraide mutuelle, tout un réseau de solidarité entre pairs, de nouvelles sociabilités finalement, qui vont faire qu'elles ne vont pas, ces personnes-là, demander l'aide là où elle peut être demandée.
Et du coup, qui passerait en deçà du radar de la reconnaissance sociale, étatique, officielle, etc. Renaud Ourcade.
Il y a surtout tout le poids du stigmate de demander de l'aide. Ceux qui ne demandent rien, sont ceux qui ne veulent pas être identifiés comme étant en situation d'avoir à demander de l'aide.
D'où le paradoxe quand même visible et invisible, c'est-à-dire que c'est pas si simple en fait.
Et d'où l'idée que vous aviez raison en nous posant la question de la majorité qui est celle qui finalement souhaite rester invisible parce que...
Le peut rester invisible.
Bien sûr qu'il le peut, parce que celle qui sort de la norme, en fait, de la visibilité définie en tant que norme, est celle qui est la minorité anormale, en voie d'exclusion, marginalisée, qui ne correspond pas à un standard de vie d'existence, en fait.
Et soit se rendre visible, c'est à la fois conquérir des droits, mais c'est aussi se proclamer comme nécessitant de l'aide.
Tout à fait.
Et ça, c'est pas forcément socialement, pour en revenir à la reconnaissance, reconnu et valorisé. Au contraire.
Non, bien sûr. Être en situation de demander de l'aide dans les milieux ruraux en particulier, comme des études l'ont montré, dans les milieux des personnes âgées vieillissantes, c'est quelque chose qui, éthiquement, dans un rapport à la norme de vie, n'est pas... possible, n'est pas attendu. Donc on fait tout pour éviter d'avoir à demander de l'aide. Le RSA activité qui permet de compléter son salaire quand on a une activité à temps partiel d'une allocation, mis en place donc par Martin Hirsch, a été très peu demandé. Des taux de non-recours, donc des gens qui y auraient droit mais qui ne le demandaient pas, qui se sont élevés à 60-70% pour le RSA activité. Pourquoi est-ce que des travailleurs qui pouvaient compléter leur revenu d'une allocation ne l'ont pas demandé en masse? Ils ne l'ont pas demandé en masse. Ce qui montrait que le dispositif avait un gros défaut de conception. Eh bien parce qu'ils étaient valorisés par l'idée d'être des travailleurs, d'être autonomes dans leur réalisation d'eux-mêmes, parce qu'ils trouvaient une visibilité, dans la théorie d'Honnête, une confirmation intersubjective de soi. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient exister dans le regard de l'autre du fait qu'ils travaillent de toute manière.
C'était infirmé par le fait d'aller chercher de l'aide autrement.
Voilà, et c'était beaucoup plus important et beaucoup plus satisfaisant éthiquement et moralement et du point de vue de leur statut social que de se retrouver en contact avec une assistante sociale ou n'importe quel intervenant du secteur social qui lui-même les mettra en position de demandeur, donc en position d'infériorisation malgré toute la bonne volonté des travailleurs sociaux, dans une position de tutelle vis-à-vis de l'État. Donc c'est un bon exemple, le RSA Activité, pour montrer que la réalisation, la visibilité dans le travail, la visibilité normale normale, celle de la de l'estime de soi, de la part d'autonomie qu'il y a à respecter les codes du travail, mais aussi à se jouer de, à jouer avec son emploi du temps, à jouer avec son patron, ça permet une estime de soi qui finalement emmène à dans certaines conditions matérielles, à pouvoir se passer du volet financier pur et simple.
Vous vouliez réagir, Mélène Cervera? Non.
Si, je complète simplement mon ami Renaud Orcade ici sur c'est à noter que l'État a fini par réagir par rapport à cette question de RSA activité puisqu'il l'a transformé depuis janvier là en prime d'activité qui sera directement prélevée sur les impôts des personnes qui pourraient y avoir droit. Je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit dans l'archive sonore et ce que vous avez dit également sur la question de l'invisibilité, ça va forcément être quelque chose de négatif. C'était un petit peu souligné tout à l'heure, l'invisibilité, cela peut être aussi un refuge, ça peut être aussi une protection, et ça peut être aussi une manière d'appréhender la vie sociale différemment et du dehors. On a un ensemble d'expériences, d'expérimentations alternatives qui se déroulent, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, qui ne se revendiquent pas forcément complètement invisibles, mais ont des effets sociaux sur leur territoire qui transforment peu à peu les relations sociales et leur existence sociale, tout en se situant en décalage avec la norme de la vie sociale.
Je pense que c'est très important d'insister aussi sur la question des représentations sociales et politiques de ces groupes et de ces classes. Et on pourrait dire, comme ça, un des résultats importants de notre enquête, c'était finalement ces ouvriers, quand on allait les voir chez eux ou au syndicat, et ils nous disaient, mais et nous, qu'est-ce qu'on est devenus, vous? Et vous, les intellectuels, est-ce que vous ne nous avez pas aussi un peu oubliés? C'est aussi un des objectifs de notre travail. Le titre de ce livre, Retour sur la condition ouvrière, c'est aussi de dire, voilà, ces ouvriers-là, ils existent, et les ouvriers, après la classe ouvrière, mais entre guillemets, on les a rendus invisibles, en tout cas, ils sont devenus invisibles, plus personne n'en parle, et ça contribue beaucoup à la question de la démoralisation de la classe, un mot que j'ai pas encore employé, mais c'est la démoralisation du groupe ouvrier, ça exerce une sorte de cercle vicieux qui fait que les conditions d'existence, de travail se dégradent, et en plus, l'histoire sociale du monde ouvrier, l'histoire sociale du Parti communiste, par exemple, c'était d'imposer des représentants ouvriers à ce monde ouvrier, donc avec des possibilités d'identification. Bon, tout cela a disparu et c'est vrai que ça joue un rôle important dans la démoralisation du groupe.
C'est une archive de 2007 dans Questions d'éthique par Monique Cantos-Perber et c'est la voix du sociologue Stéphane Beau. Il attire notre attention sur la question de la représentation politique. Alors lui, il en parlait dans ce cas à l'égard de la classe ouvrière, mais évidemment, il en est question dans un autre ouvrage qui s'appelle La France invisible et qu'il co-signait avec Joseph Confavreux et Jade Lingard. Cette question de la représentation politique, elle est aussi au cœur de votre réflexion, Renaud Orcade et Mélène Cervera, notamment dans ce rapport que vous signez sur la fabrique plutôt institutionnelle de l'invisibilité sociale et différents entretiens que vous avez eus avec des élus. Qu'est-ce que vous leur avez posé comme question à ces élus-là, Renaud Orcade?
Il y avait un côté paradoxal à aller rechercher l'invisibilité auprès des acteurs qui sont ceux, justement, qui ont le regard tourné ailleurs, donc qui étaient quelque part en situation de ne pas voir ceux dont on voulait qu'ils nous parlent.
Ça part du principe que vraiment les élus ne s'occupent pas des invisibles, en tout cas qu'il n'y a pas de bénéfice politique à s'en occuper.
Et on essayait de connaître les voies par lesquelles ils pouvaient arriver sur leur bureau des sujets portés par des porte-paroles, des associations ou des acteurs eux-mêmes qui les convoquer pour traiter d'un sujet qui n'était jamais traité. Et on a eu quelques remontées du terrain, des élus du travail, des gens qui sont dans les conseils généraux, au quotidien, dans les mairies, confrontés à la lutte quotidienne contre l'exclusion, pour aider les gens en difficulté. Et il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre qui permettent de sortir des lacunes des systèmes de l'État-providence généraux. Il y a beaucoup d'initiatives, on pourra y revenir un peu plus tard, mais je voudrais juste noter que la référence que fait Stéphane Beau à la disparition de la classe ouvrière est parfaite pour illustrer la façon dont ce sont les perceptions qui dictent la visibilité. Il n'y a pas de disparition en elle-même de la classe ouvrière. Elle a subi des mutations du fait des CDD, de l'intérim, de la précarité. On connaît bien la façon dont le travail a changé. Mais elle a surtout perdu ses porte-paroles. Elle a perdu les syndicats, qui représentent plus que 5 à 7% des salariés du privé. Elle a perdu le Parti communiste. Elle a perdu les grands organes de presse du monde ouvrier. Elle a Elle a été quelque part privée de parole avant d'être rendue invisible. Elle a été rendue inaudible avant d'être rendue invisible. Elle est fragmentée. La classe ouvrière est composée de petits bouts, de groupes qui sont dans des conditions très très différentes entre un ouvrier en CDI, un jeune de moins de 25 ans qui cumule des contrats en intérim, c'est pas du tout la même chose. Mais néanmoins, en tant que cause sociale, elle a vraiment disparu.
Et ça, vous diriez que c'est quelque chose qui précède l'invisibilité ou la fabrique institutionnelle de l'invisibilité, ce processus d'être rendu inaudible.
C'est le même contexte. Le processus d'être rendu inaudible est lié à la question de l'invisibilité, au sens où, en étant privé de porte-parole, on est privé de visibilité institutionnelle. C'est ça la clé. Est-ce qu'on fait partie, parce que là on se situe dans un cadre de politique sociale et d'aide aux plus démunis. Est-ce que si on n'a pas voix au chapitre, est-ce que si on n'a pas la parole, on peut obtenir des droits et on peut exercer ces droits? Si on est inaudible, si on n'est pas représenté politiquement, personne ne pense spontanément à vous. Il faut donc qu'il y ait des associations comme ATD Quart Monde, des chercheurs comme Mona Mayer et des plus illustres aussi comme Céline Braconnier et Nona Mayer qui ont publié un livre qui s'appelle Les Inaudibles très récemment et qui consiste à étudier la façon dont les classes les plus précarisées ne participent pas aux élections, aux débats publics, à la vie des partis politiques, par exemple, mais pensent quand même beaucoup de choses politiquement, et quelles sont les raisons sociales et logiques sociales qui font qu'elles n'ont pas cette parole, qui posent question dans un cadre démocratique où tout le monde est censé avoir la parole.
Mais à vous entendre, c'est un cercle parfaitement vicieux, c'est-à-dire que d'abord, ils deviennent inaudibles, donc parce qu'ils sont inaudibles, ils deviennent non représentés car ils ne prennent pas part au processus de représentation, donc ils s'excluent peut-être un rapport officiel de la vie publique et de la vie sociale, ce faisant, ils s'excluent encore plus de la sphère de la population qui est audible, etc., etc., j'ai envie de dire. Alors comment à la fois aller contre ce processus et comment peut-être expliquer la première étape de ce processus qui les rend inaudibles?
Au niveau de l'inaudibilité, il y a en effet un processus. Et il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre du subjectif, de la trajectoire individuelle, personnelle et du repli sur soi, mais surtout, c'est une explication institutionnelle qui prime, je pense. C'est-à-dire que c'est un empilement de dispositifs d'aide qui vient créer finalement l'invisibilité sociale. On crée depuis 88, on a créé le revenu minimum d'insertion, on a créé un ensemble de dispositifs sociaux pour venir à ceux qui sont en situation de pauvreté, pour venir en aide à ces personnes. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que tous ces dispositifs-là, au lieu de créer une société inclusive, englobante, ont repoussé un certain nombre de groupes ou de catégories ou d'individus à la marge du social.
Oui, mais là, ce que j'entends, c'est même autre chose. C'est une définition de soi et c'est la définition d'un groupe. Quand on parle de classe ouvrière, c'est aussi une identité. Et puisqu'on parle non pas de sa disparition, mais de sa modification et peut-être de sa dispersion des êtres dans plein d'autres sphères, c'est comme s'il n'y avait pas eu de créativité au sens de comment on se représente, comment on se dit, comment on se raconte et à travers quels organes, s'il y a une disparition du syndicat, s'il y a une disparition du récit de la classe ouvrière par elle-même. Dans ce cas, ça veut dire que le 21e siècle et la fin du 20e siècle n'a pas su inventer une façon de se dire pour ces personnes-là.
On peut essayer d'être un peu moins pessimiste et fataliste et considérer qu'il y a des porte-paroles qui peuvent se lever aussi pour promouvoir des intérêts qui sont des causes qui sont invisibles politiquement et médiatiquement.
Et transversales.
On a réussi à voir apparaître dans les années 90 un mouvement de chômeurs qui a eu du mal à exister, qui a eu du mal à obtenir des choses, mais qui a quand même existé. Il y a eu des occupations d'ANPE de l'époque, des services de l'emploi, et donc ça voulait bien dire que des gens qui étaient en situation de stigmatisation pour leur situation, enfin une certaine partie d'entre eux en tout cas, parvenaient à s'organiser pour attirer le regard sur leur situation. Donc il peut émerger, c'est toujours possible, l'histoire n'est pas écrite, des porte-paroles qui remettent sur la table des questions de précarité qu'on a complètement oubliées. Mais quand on regarde l'état du débat médiatique et du débat politique, on n'est pas loin de partager votre pessimisme.
C'est une question.
Pessimisme,
hein.
Fatalisme, en tout cas celui que vous avez, dont vous avez fait part en vous faisant peut-être un peu l'avocat du diable en l'occurrence. Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Mais en discutant avec les élus, par exemple, qu'on est allé voir un certain nombre d'élus qui sont les plus engagés sur ces questions-là, ils nous disent tous très clairement qu'il n'est de toute façon pas payant de s'engager sur des questions de précarité, de visibilité, d'invisibilité, etc. Et c'est, on ne fait pas une carrière politique dessus, on ne le met pas en avant dans une campagne électorale. Et c'est même le contraire qui peut se produire. Le mettre en avant peut vous coûter un grand nombre de voix.
Mais ça, on aurait pu considérer que ce fut toujours le cas. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce serait...
Moi, c'est beaucoup plus le cas que dans les années 90, quand un candidat à la présidence de la République pouvait mettre en avant le thème de la fracture sociale. Mmh. Quand on a créé le RMI en 88, il a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale.
Alors comment ça s'explique ?
Ça s'explique par un changement de paradigme idéologique qui a fait basculer la vision des rapports sociaux et de la pauvreté, qui était à partir du début de la crise, de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, qui était orientée vers une forme de compassion, d'assistance. Le RMI, tous les dispositifs ponctuels d'aide étaient conçus de cette manière, a été complètement bouleversé par l'idéologie de... De l'idéologie néolibérale, pour le dire rapidement, en fait, qui est l'idée que l'individu autonome et responsabilisé doit trouver seul sa propre voie, qui est l'idée que chacun doit acquérir les compétences qui lui permettront à lui-même de se sortir de sa situation. On a responsabilisé les individus du fait de leur expérience, de la pauvreté, plutôt que de responsabiliser les structures sociales, les mutations du capitalisme, la disparition de l'emploi, du plein emploi. Si le chômage devient structurel, qu'est-ce qu'on fait des millions de personnes qui ne pourront jamais trouver de travail concrètement? On a refusé de se poser la question des formations et de l'éducation, du système de formation, de l'élitisme par exemple, académique, etc. Donc on a construit une responsabilisation individuelle des précaires et des chômeurs. Et c'est celle-là qui contribue à la stigmatisation, qui contribue au non-recours au droit et qui finalement empêche de penser une émancipation plus collective.
Oui, je partage complètement ce que pouvait avancer Renaud. On est dans un changement un petit peu de paradigme, mais aussi de système économique, hein, et c'est enfin une continuation et un approfondissement d'un système économique qui se situe sur une libre concurrence exacerbée. C'est dans ça qu'il y a aussi culturellement, il me semble, des choses qui sont en train de se modifier depuis 73, 79, depuis les politiques et la déception qu'il y a eu par rapport aux politiques menées dans les années 80 puis 90. Et aujourd'hui, en 2015, on est bien sur l'idée d'un individu qui se construit tout seul, un individu autonome et souverain qui doit, pour s'en sortir, compter sur ses propres capacités qu'il a appris par son expérience. Et le problème aujourd'hui de cette philosophie, si on peut l'appeler comme ça, c'est que ces expériences et ces capacités, elles sont construites par l'individu seul. L'individu qui est finalement dénoué de son lien à l'autre, dénoué des collectifs. Et là, on peut faire le pont avec cette question de l'invisibilité, la question du porte-parole. C'est parce que on est sur un individu qui est devenu séparé, qui a été séparé par une... Lordon parlerait de structures, hein, des structures sociales que sont le néolibéralisme, le capitalisme. Cet individu qui est séparé ne trouve plus à se rendre visible collectivement dans l'espace public. Mais de ce fait, il y a quand même des réponses qui sont apportées. Il y a des réponses qui sont apportées par les conseils départementaux, il y a des réponses nationales, et il y a des réponses au niveau communal qui sont apportées, qui se font par les dispositifs dits de participation. Des personnes vulnérables, que ça soit dans les politiques sociales, dans le RSA, que ça soit au niveau des CAF, par exemple, la participation des usagers, finalement, aux services publics qui vont pouvoir être reconnus et se rendre moins visibles dans ces politiques de participation. Donc on voit parfois que cette réponse-là, elle n'est pas suffisante, que la participation peut être aussi un peu de poudre aux yeux et simplement développer un rapport instrumental avec le public dit bénéficiaire d'une aide. Mais du coup, il y a une autre réponse, et cette autre réponse à cette montée des rapports sociaux exacerbés sur le chacun pour soi, finalement, ça va être des nouveaux collectifs, et là, je pense que l'invisibilité, elle peut trouver son versant positif, son versant vertueux, des nouveaux collectifs qui vont se créer dans l'échange entre pairs, l'échange économique, des nouvelles redistributions qui se situent sur l'ordre du commun, de la vie en commun, de l'habitat en commun, de l'autoconstruction en commun. Tous ces collectifs, finalement, au départ invisibles, se rendent de plus en plus visibles dans l'espace public et reconquièrent finalement une économie avec une manière différente de la développer.
laisser en surface que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber. Aux spleen et aux étoiles plombées, que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place. Je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface, tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser, oui mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface, délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées et claqué le temps perdu en surface.
Hélène Cervera, c'est vous qui avez choisi d'entendre Étienne Daho, pourquoi ?
Parce que je pense que ce morceau qui glisse entre la surface, les bas-fonds et les cieux est intéressant justement pour penser des stratégies de la marge.
Et alors ça nous permet de peut-être rebondir, comme nous le faisions d'ailleurs en écoutant cette musique, sur ce que vous avez dit juste avant de l'entendre, à savoir plutôt une parole pleine d'espoir, une manière d'aller contre l'invisibilité sociale en se regroupant à des endroits de marge, en travaillant des économies de pair à pair, en travaillant des économies et des chantiers, des constructions plus alternatives. Vous diriez que c'est un vrai levier d'émancipation qui a cours et pas seulement à une échelle microscopique.
C'est pas une échelle microscopique, je pense que c'est une échelle qui se situe au niveau des territoires locaux, et qu'il y a différents liens de l'ordre du droit, c'est-à-dire d'être en commun dans une société, de l'affectif, de l'ordre de l'amour et de l'amicalité entre les personnes, et de l'estime de ce que l'on fait, que ça soit de tourner des pots et de construire des pots, de construire par exemple des yourtes, de construire des cabanes. Alors là, on est un peu plus davantage sur les milieux ruraux, mais il y a des nébuleuses qui se développent, notamment associatives, qui sont du même ordre également au milieu urbain. Et je pense que est capté dans les dynamiques d'économie solidaire, normalement, pas seulement une certaine frange d'une population qui serait dite éveillée, mais également des personnes qui ont des trajectoires plus chaotiques. Et à ce titre, je pense que, même si les travaux sur les chômeurs et les trajectoires brisées montrent qu'il est parfois difficile de faire collectif, on peut garder un petit peu un regard positif sur cette manière, pas d'émancipation, mais d'auto-émancipation collective. Il ne faut pas en cela que l'État émancipe les personnes ou que l'émancipation vienne de l'extérieur, mais on est bien sûr du collectif qui crée une auto-émancipation, dans laquelle s'insèrent ensuite les individus et leur trajectoire.
Et ce seraient des collectifs qui demeurent invisibles à l'État, qui demeurent pas regardés, entre guillemets, par l'État ?
Moi, je pense que ces collectifs sont en friction, je dirais, mais en friction qui peut être vertueuse avec les services publics, et qu'une négociation peut s'opérer et qui déboucherait, je dirais, sur la co-construction d'une action publique et d'une société plus solidaire.
Ce serait l'idée d'une société qui serait qui emprunterait à la fois au modèle de l'État-providence et d'une grosse structure de la société publique et à des initiatives, je sais pas, associatives, plus venant des citoyens, etc. Ce serait une sorte de co-construction de cette manière-là.
Ben, ça serait, là j'emprunte des travaux à certains de mes mentors, mais ça serait oui une co-construction de l'action publique ou de l'État moderne finalement, avec la participation citoyenne et associative, qu'on pense aux modes de consommation alternatives, ou qui sont tout à fait normales au fond si on revient sur plusieurs siècles, qu'on pense aux modes d'habiter ensemble, ou qu'on pense encore aux modes de faire ensemble.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que la question de la représentation politique, au sens où la démocratie contemporaine, en tout cas française, l'entend encore, elle est bientôt plus d'actualité? Ce sont des choses qui se font en dehors de l'espoir dans la représentation démocratique?
Elle mérite d'être réfléchie à nouveau frais. Il faut prendre en compte les taux d'abstention absolument énorme.
Une autre invisibilité.
Exactement, qui correspond à celle dont on a parlé, des classes populaires, par exemple. Elle correspond aussi à l'effet de microcosme que peut renvoyer l'élite politique, administrative et médiatique également, au choix des sujets qui sont traités, à la présence dans les médias, etc. Il y a un système de débat, un système d'espace public qui mérite d'être repensé, effectivement. Et il y a beaucoup de paroles légitimes qui ne sont pas entendues et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et juste pour mentionner un exemple d'initiatives qui vont dans ce sens, la réflexion de Pierre Rosanvallon quand il a lancé son site internet sur le Parlement des Invisibles, c'est celle de donner la parole à des gens du quotidien qui, en règle générale, ne l'ont pas.
Le grand problème, c'est que le langage politique utilise des catégories qui ne racontent pas la réalité. Et comme elles ne racontent pas la réalité, on a l'impression que tout glisse, que ce sont simplement des stéréotypes, qu'on est en quelque sorte dans un monde différent. Aujourd'hui, qui porte la parole de cette nouvelle classe ouvrière complètement éclatée? Qui porte la parole, par exemple, Cécile Coulon, une jeune romancière, prépare un livre sur ce que c'est qu'avoir 20 ans dans des petites villes moyennes en déclin. Bon, ben ça, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Et le fait d'en parler sur la longueur d'un petit livre permet en quelque sorte de montrer où sont les urgences, où sont les problèmes de façon différente, alors qu'aujourd'hui il y a une espèce de vision trop panoramique, d'une vision trop générale qui écrase un peu la réalité. Qui écrase la réalité, ça veut dire aussi qu'elle écrase les gens, qui sentent qu'au fond, ce qu'ils vivent, c'est sur une autre planète que ceux qui parlent. Et c'est un petit peu cela aussi, restaurer, faire venir sur la planète sociale, sur la planète commune, ces différentes paroles.
Faire se rejoindre la planète de ceux qui vivent et de ceux qui parlent. Renaud Hourcard, vous évoquiez à l'instant la figure de Rosanvallon. Bah, on l'entend ici, c'est une archive du 7 janvier 2014. On évoquait tout à l'heure la très grande importance de l'existence aussi médiatique dans le discours, dans l'accès à la parole publique. Quand vous dites qu'il faut repenser cela, selon quelle piste?
Les pistes que Melaine a soulignées sont un bon point de départ. Réorganiser localement au niveau des territoires, des modes de faire, mettre en dialogue les institutions du social, parce que ce sont celles dont on parle, avec les usagers, faire participer les bénéficiaires, les allocataires, les ayants droit du RSA ou d'autres dispositifs à la définition, aux objectifs, à l'évaluation de ce qui est mis en place, réouvrir les modes de décision, réouvrir les médias également. Alors là, j'ai pas la solution, mais effectivement, il faudrait pouvoir traiter de sujets différents, réinvestir la question sociale dans la littérature, dans les médias, etc. On peut constater que des porte-paroles, parfois inattendues ou qui viennent d'autres milieux, peuvent mettre sur la table. Je pense à Florence Aubenas avec son livre sur le quai de Ouistreham, qui a visibilisé des situations que connaissent des millions de gens, qui sont très très communes, le travail précaire, les femmes qui se lèvent tôt, qui n'ont pas les moyens de garde pour leurs enfants, etc. C'est une manière de mettre un sujet sur la table. Bon, l'idéal, ce serait que ce soit les personnes qui en souffrent, qui soient les premiers porte-parole de leurs problèmes. Mais bon, en attendant qu'on trouve les moyens de le faire, c'est déjà une bonne manière de revaloriser, d'enrichir le débat public et finalement les politiques publiques. Mais il faut trouver des dispositifs qui permettent aux usagers des politiques sociales, en premier lieu, d'intervenir dans ce qui est fait pour eux.
Melaine Cervera, pour conclure.
Je pense qu'il est justement très, très important de repenser les territoires et l'action publique à partir des initiatives citoyennes et de ceux dont qu'on n'entend plus inaudibilité ou qu'on ne voit plus ou qu'on voit trop. On a parlé du paradoxe de cette dialectique du visible et de l'invisible. Je pense également qu'il est important de réouvrir l'université, de réouvrir les recherches qui sont faites dans les grandes écoles ou à l'université et de repenser la manière dont on monte des recherches-actions qui se reconnectent et qui se connectent au réel et qui s'ouvrent aux médias généralistes ou spécifiques, de manière à ce que des nouveaux outils, des nouveaux savoirs, issus de savoirs expérientiels également, puissent être mis en avant pour trouver des solutions sur les territoires et repenser le politique avec un grand P. Voilà.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Et finalement, c'est une émission qui est optimiste. 14h50 sur France Culture, à cette heure-ci, les discussions se suspendent pour faire entendre des déclics, des moments d'ouverture, de découverte. Et cette semaine, nous avons proposé l'exercice au peintre Jean-Pierre Ploundre. Il parle de sa découverte de la radio avant qu'elle ne devienne une compagne d'atelier. Elle lui permet de s'ouvrir, enfant, adolescent, à la littérature et aux voix des auteurs.
Alors, sans faire de flatterie, bien sûr, c'est France Culture. C'est pas parce que je suis là que je dis ça, mais je trouve que c'est une radio un peu d'exception. Et ça a été pour moi vraiment, dans mon enfance, un moyen de m'ouvrir complètement sur le monde et de découvrir ça un petit peu par hasard. Parce que j'étais pas dans un milieu culturel où il y avait une grande circulation de livres. Et cette histoire de radio, c'est venu même quand j'étais très, très jeune. Alors là, c'était pas France Culture, mais quand ma mère faisait du repassage, j'écoutais les feuilletons radiophoniques. Et je crois que c'était Noël aux 80 de Dominique Saint-Alban avec la réalisation de Jean Chouquet. Et alors comme c'était un peu le moment de calme pour elle, certainement, elle écoutait ça tous les jours, ces feuilletons à l'eau de rose, hein, complètement désuets. Mais moi, j'étais dans la maison était petite et j'écoutais ça et je me vois encore mimer un petit peu ce qui se passait dans ce feuilleton. C'est-à-dire, je montais les escaliers, je descendais, je toquais aux portes et là j'entendais les bruiteurs, parce qu'il y avait des bruiteurs à la radio. Je suis né en 57, donc ça devait être dans les années 62, 63, j'étais tout petit. Et puis, en fait, ça s'est continué d'une autre manière. Mes grands-parents devaient déménager, ils avaient entreposé du mobilier dans un garage, dans le fond du jardin. Et là, il y avait un meuble hi-fi, où il y avait un tourne-disque, et puis et un tonnerre, et là on pouvait enfin écouter le son en modulation de fréquence. Alors je suis pas vieux, mais entre le transistor qui diffusait les feuilletons radiophoniques, c'était un son un peu nasillard, et puis la modulation de fréquence, c'était un progrès énorme. Et en fait, je devais avoir une dizaine d'années, j'écoutais ça, et je suis tombé effectivement sur, à mon avis, le début de France Culture. Et ça m'a toujours poursuivi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé un petit peu à travailler dans un petit atelier, parce que je fais de la peinture et j'ai toujours fait de la peinture, j'écoutais aussi la radio, là, dans un poste qui émettait aussi en modulation de fréquence. Et là, j'ai pu découvrir beaucoup de choses, m'ouvrir sur le monde dans... c'était un moyen extraordinaire de pouvoir comme ça découvrir la culture, mais d'une manière un petit peu en se laissant aller, parce que quand on fait de la peinture, on n'est pas forcément attentif à ce qu'on fait, il vaut mieux pas, et puis on a ces voix. Et donc là, j'ai découvert beaucoup de voix, par exemple de Pierre Descargues, qui avait tout un lundi, ça s'appelait l'invité du lundi, où il invitait des gens comme ça, des artistes, des écrivains, et il les mettait dans le noir pour les laisser parler pendant 5-10 minutes. Donc il y a les voix des présentateurs, et puis un petit peu plus tard aussi, il y a toutes les aventures des Nuits Magnétiques, où là, il y avait la voix, bien sûr, d'Alain Weinstein, ou de Laura Adler, ou de Colette Fellous, qui étaient c'était un petit peu des amis dans mon monde, qui étaient un peu en dehors d'un circuit académique, parce que je suis plutôt autodidacte, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de découvrir beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et par hasard, j'ai entendu la voix de Georges Perec, et il y avait une lecture au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. J'ai assisté à une lecture de Georges Perec, il disait « Je me souviens ». Et il est arrivé dans un imperméable, je m'en souviens encore, dans un imperméable jaune qui était ruisselant, il pleuvait beaucoup, et il a commencé à lire des extraits de « Je me souviens ». Avant que le livre paraisse, je crois que c'était dans les années 80, en 1980.
That I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Sound that I won't refuse. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe.
Tell Me a Tale de Michael Kiwanuka. Ça nous permet de terminer par cette phrase qui est qu'il faudrait que l'histoire de chacun puisse être dite à peu près par chacun. Renaud Ourcade et Mélène Servera, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ouvrir cette semaine sur l'invisibilité. On mettra un lien pour les courageux, les intéressés qui veulent lire l'ensemble du rapport qu'on a beaucoup évoqué. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. Pour les réécouter, celles-ci ou celles d'avant, on peut se retrouver sur franceculture.fr à la page des nouvelles vagues. Normalement, vous avez tous les liens et toute la programmation musicale et le lien vers les autres séries, Twitter et Facebook, pour continuer d'échanger. Merci beaucoup pour vos messages et merci à Romain de Becdelièvre et Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Marie Jaworski et au droit d'auteur Thomas Bizot.